Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Un dernier petit tour dans l'instant M et ce sera bientôt le week-end.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoilez?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Une petite fiction vaut-elle mieux qu'un long débat? Qu'est-ce que le survivalisme et la collapsologie? Eh ben, on sait pas très bien. Les militants écologistes les plus radicaux, les plus pessimistes, les plus exigeants sont-ils médiatiquement entendables, socialement acceptables? Pas sûr. Des mots aux actes, certains ont choisi les actes de la prophétie à sa réalisation. Ils ont voulu montrer le jour d'après sans autre explication. Un genre de fin du monde sur Canal+, qui file bien les chocottes et que ses concepteurs ont voulu tourner en évitant la gabegie habituelle des plateaux de télé et de ciné.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Parce que oui, un tournage, c'est une gabegie, et c'est pas Andrea Vistoli, producteur, ici présent, qui dira le contraire, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
C'est,
ouais.
C'est un grand gâchis organisé.
C'est un grand gâchis, et c'est surtout une mise en place de beaucoup de logistique et beaucoup de backup de sécurité. Un tournage, ça coûte très cher.
Ouais,
et
ouais.
On a tendance à faire une avalanche de moyens pour s'assurer du résultat.
Très
et en
bien.
Fait, en maîtrisant un tout petit peu mieux les dispositifs et les process, il y a moyen effectivement de réduire l'impact d'un tournage.
Il a dit process sur France Inter.
Pardon.
À vos côtés, il y a Bastien Huguetto. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Un des réalisateurs de la série dont on va parler, L'Effondrement, membre du collectif Les Parasites. Ouh là là, les parasites de méchants petits écolos. Ils sont jeunes et ils sont talentueux. Comme autant de petites bêtes qui démangent et qui sucent le sang du système. On aimerait bien s'en débarrasser des parasites. Mais on n'y arrive pas. Les deux autres s'appellent Jérémy Bernard et Guillaume Desjardins. Alors, L'Effondrement, la série dont on vous parle ce matin, est diffusée tous les lundis sur Canal+, depuis cette semaine. Les 8 épisodes qui font en gros une vingtaine de minutes sont déjà tous disponibles pour les abonnés de MyCanal. On vous en parle dans un instant. Il y a Bruno Donnet, parce que forcément, on est vendredi. Ça va, Bruno Donnet?
Bonjour Sonia, ça va?
Il a mis sa chemise noire à tête de mort pour la fin du monde. Sinon, on est vendredi, donc il y a aussi notre jeu du vendredi, notre Madeleine. Elle a été choisie par notre équipe, chers invités, spécialement pour vous. Attention, c'est très difficile ce matin. Parce que la semaine dernière, avec notre extrait de Cat Size, on a fait littéralement bugger le système tellement on a eu de réponses. Là, vous allez être moins nombreux. Comment s'appelait ce magazine télévisé consacré à la protection de l'environnement en France, diffusé sur la première chaîne de 1971 à 1977?
Les châteaux d'eau. Nous y revenons en effet. Pourquoi ? Parce que ces monuments de béton qui s'éparpillent à travers la campagne française sont pour nous un symbole. Le symbole de la laideur avec ce qu'elle comporte de négligence, de faux prétextes, de paresse, d'absence d'imagination, voire d'intérêts obscurs.
Magazine sur la protection de l'environnement diffusé sur la première chaîne de 71 à 77. C'est là qu'on découvre que nos deux invités n'étaient pas nés. Votre réponse à l'instant M à radiofrance.com. Soyez le premier. Bonne chance à vous tous. Cette semaine, mon cher Bruno Donnet, vous avez trouvé l'actualité médiatique particulièrement pénible et vous avez choisi de trouver refuge dans un marronnier?
Oui, cette semaine, entre les inepties du très caramélisé Georges Kiechmann qui a réussi l'inégalable performance de balancer sur LCI au sujet de Pierre Desproges.
D'abord, Desproges est un antisémite, point barre.
Mm-hmm. Et le débat sur la sortie du film d'un Polanski accusé de viol qui a fait dire hier au journaliste du Figaro Magazine Jean-Christophe Buisson qui s'exprimait sur RTL.
Je l'ai vu une première fois, je suis un peu plus réservé que Patrick, mais je suis allé voir une deuxième fois juste pour enquiquiner les féministes.
Je vous avoue que j'ai eu envie de partir loin, très loin de ce tintamarre et de ne surtout pas mettre les mains dans cette immonde bouillasse. Alors, eh bien alors, je me suis souvenu que j'avais aperçu jeudi dernier un splendide marronnier dans le 13h de TF1 et j'ai donc choisi lâchement de m'y réfugier. Alors un marronnier dans le langage journalistique, vous savez ce que c'est hein Sonia, c'est un sujet que l'on peut faire et refaire tous les ans parce que tel le marronnier qui immanquablement refleurit au printemps et se fans à l'automne, il revient sempiternellement dans l'actu. Ainsi, la rentrée des classes est un marronnier, tout comme la neige en hiver ou la chaleur en été. Ces sujets-là, comme moi, vous en avez tous vu des tripotés, mais ce qu'il y avait de totalement spectaculaire dans celui sur lequel je suis tombé, c'est qu'il s'agissait d'un marronnier au sens propre du terme. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, j'ai vu dans le journal de 13h un reportage sur les arbres. Pourquoi ? Eh bien, Jean-Pierre Pernaut l'a justifié très facilement dans son lancement.
C'est toujours l'automne, la période la plus désagréable de l'année pour les jardiniers.
Eh oui, parce que c'est l'automne et que en automne,
faut ramasser les feuilles mortes.
Voilà, du coup, un journaliste de la rédaction de TF1 s'est tapé d'aller illustrer le marronnier absolu, un sujet sur les feuilles mortes qui tombent parce que c'est l'automne. Alors le marronnier d'ordinaire, c'est la hantise totale du journaliste, le truc le plus chiant de la création auquel il tente d'échapper par tous les moyens et auquel il essaye de trouver, toujours vainement, un traitement original. Mais là, dans le reportage que j'ai vu, le type qui l'a signé n'a absolument pas tenté de se singulariser. Il a pris son marronnier à bras-le-corps, comme n'importe quel autre sujet d'actualité, et il l'a traité comme si on lui avait demandé d'aller couvrir un train qui déraille ou un mouvement de grève dans les hôpitaux. Il a donc commencé descriptif par détailler ce qu'il avait sous les yeux, des feuilles.
Elle tapisse le sol d'un épais manteau brun, jaune et ocre.
Puis il a cherché un témoin pour incarner son sujet. Il a donc dégoté Daniel, ratisseur de feuilles mortes en jardin.
Oh, c'est plus un plaisir qu'une corvée.
Avant de conclure, factuel, en apportant une info.
Dans les centres de recyclage de la métropole de Lyon, l'an dernier, 76 tonnes de feuilles ont été transformées en terreau.
Ah bah quand
voilà.
Même.
Remarquable traitement du marronnier et la démonstration que lorsque partout dans les médias on se questionne légitimement sur les dérèglements climatiques, où on s'angoisse face à un monde en grande mutation et où on assiste à l'hystérisation systématique de tous les débats de société, coucou le voile islamique, salut Alain Finkielkraut, il existe encore un bastion de la France éternelle, un endroit douillet dans lequel on peut s'installer confortablement pour écouter le monde, surtout ne pas changer d'un pouce. Ce village d'irréductibles, c'est le trésor de TF1 et je dois vous avouer que cette semaine, face au spectacle de philosophes qui font passer la patrie des Lumières pour un pays dans lequel on manque singulièrement d'ampoules, je l'ai trouvé très reposant.
Il n'y avait même pas un petit peu de Yves Montand, quelque chose comme
non,
ça.
Non,
même
nickel.
Pas, même pas, même pas. Merci beaucoup. Eh bien, chaque automne, vous réécouterez Bruno Donnet sur franceinter.fr. Je félicite Jean. Jean qui va gagner un disque 33 tours, Joséphine Baker, avec Même j'ai deux amours réenregistré sur scène lors de son retour à Paris en 1944. Jean qui a reconnu ce magazine mythique au titre, lui aussi mythique, La France défigurée.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Alors là, je vous propose une plongée dans une France pas défigurée du tout. C'est la France de demain ou c'est la France de cet après-midi, la France de ce soir. Avec un réalisme effarant, ce sera la fin du monde. À la pompe à essence, on rackette le client de la bouffe contre du carburant.
Ah, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Tu vois? Il y en a 9 comme ça. Trois paquets de lentilles et du chocolat.
Ok. Mais amène-nous 5 litres.
5 litres ?
Ouais.
Mais il y a au moins 40 euros là-dedans.
Ah, si vous voulez, vous retournez à Paris faire le plein.
Il y a un stop, hein.
Ouais, remarque, dans ce sens-là, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde, hein. Regardez. Bon, prenez ou vous tirez.
C'est dégueulasse.
Merci.
Bastien Huguetto, vous êtes l'un des trois réalisateurs de L'Effondrement, cette mini-série qui est diffusée en ce moment sur Canal+. Andrea Vistoli, vous êtes son producteur. Très inquiétante série, très angoissante, vous jouez là-dessus. C'est exactement là où vous voulez gratter notre conscience de téléspectateurs. Très inquiétante, notamment parce qu'on ne sait pas pourquoi. Ça va si mal, c'est ce que vous vouliez ?
Oui, déjà nous on a fait cette série parce qu'on est personnellement très inquiet de la situation en fait.
Sans blague.
On voit tous les problèmes qui arrivent en pleine face là un peu partout dans le monde et puis on voit très bien qu'il n'y a rien d'envergure qui est envisagé au niveau mondial, niveau politique, industriel. On voit que rien ne change, donc on écoute les scientifiques et les faits et les statistiques et on voit qu'on est en train de foncer sur un mur. Mmh. Et donc on n'avait pas peur en faisant cette série de faire peur finalement pour aider, essayer de participer à une prise de conscience qui soit collective en fait.
Alors,
pour que les gens aient
pas
envie de changer.
Pas de cause et pas d'explication, parce que le jour du grand effondrement, la crise planétaire sera multifactorielle et multilocalisée.
Oui. C'est pour ça, en fait, il y a tellement de facteurs qui potentiellement pourraient déclencher une série d'événements qui de cause à effet un peu en mode domino déclencherait un effondrement. Qu'on a préféré rester flou là-dessus. Après, nous, à l'écriture, on s'est basé, on a imaginé que du jour au lendemain, la France ne soit plus approvisionnée en pétrole. Et on s'est dit, OK, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de camions à Rungis? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de camions qui amènent du pétrole dans les stations-service?
En fait, avec quand même, dans certains épisodes, on comprend qu'il y a eu précédemment des crises dans les pays du Sud, que ça aurait peut-être pu servir d'alerte, mais que personne ne l'a entendu.
Exactement, et ce qui est déjà un peu le cas. Enfin, on parle d'effondrement, nous, dans les pays occidentaux, mais quand on regarde ailleurs sur la planète, il y a des pays comme la Syrie, le Bangladesh, on voit déjà qu'il y a des populations qui font face à des événements cataclysmiques, en fait, et qui tentent de s'en sortir.
Mm-hmm. Alors, dans ces 8 épisodes qui ne se suivent pas, hein, ce sont des personnages différents, c'est pris à des moments J-5, J+5, J+45 différents de cette crise. Il semblerait qu'il y ait des personnages plus près que d'autres. Ça veut dire qu'il y a des citoyens qui sont plus près que d'autres.
C'est quelque chose qui existe déjà. Oui, effectivement, on a un épisode avec Thibaut de Montalembert qui incarne...
Je vous le fais écouter. Je vous le fais écouter. Allez, parce qu'il est génial.
Écoute,
c'est le troisième épisode.
On l'adore.
On va
Salut,
quand même
Thibaut.
Dire qu'il y a une palanquée de bons acteurs qui vous ont rejoint. Thibaut de Montalembert qu'on connaît depuis 10%, qu'on connaît bien. Il y a Audrey Fleurot, il y a Samir Ghesmi, il y a Philippe Rebaud qui jouait ce pompiste véreux. Il y a Loumna Arabal en magistral ministre de l'écologie. Là, on écoute le troisième épisode. Donc, ça se passe chez un multimillionnaire, en tout cas un type très influent et
blindax,
qui a
ouais.
beaucoup d'argent. Il est blindax. Comme
Laisse-moi.
Tu peux pas venir. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans, bordel? Je vais dans un endroit où tu peux pas aller. Allez, passe à l'ombre.
Laurent, s'il
Lâche
te plaît.
Porte.
S'il te plaît, mais t'es malade.
Allons-y. Allez. Roulez, Pascal.
Cela existe-t-il vraiment des assurances pour les ultra riches qui vous évacuent en cas de fin du monde? Peut-être pas, mais en cas de grande crise?
Oui, c'est quelque chose qui existe et sur lequel on s'est basé. Enfin, il y a pas mal d'articles qui en parlent. Je sais pas si, enfin, nous, on l'a quand même, enfin, ça reste de la fiction. Donc, on en a fait quelque chose un peu d'extraordinaire avec une vraie évacuation qui est bien organisée. Il doit se rendre. Enfin, il a un pick-up, un jet privé qui arrive sur un aérodrome. Enfin, on pense pas qu'il y a des choses qui soient aussi développées. Après, j'en sais rien. Peut-être que
si,
si, nous dit le producteur.
En Australie, en Nouvelle-Zélande, il y a des zones dans le monde qui sont protégées de la montée des eaux et qui ont déjà installé des bunkers protégés.
En gros, c'est ça.
À partir d'un million, le billet, il y a moyen d'avoir une place dedans.
Exactement,
génial,
oui,
génial.
C'est un peu les grands pontes de la Californie, Seattle, tout ça, les hauts dirigeants qui sont en train d'acheter des terres en Nouvelle-Zélande, ce genre de pays, pour se protéger. Oui.
Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire que en fait, vous filmez au travers des 8 épisodes une vaste errance. Tout le monde erre, tout le monde fuit, mais puisque vous filmez une crise planétaire, fuir où ?
Ah bah bonne question, c'est ce qu'on voit dans l'épisode de l'île justement avec Loubna Arabal qui se retrouve au milieu du Pacifique parce que pour donner envie, disons qu'elle a raté son pick-up elle. Donc elle a raté son pick-up.
Un dernier mot sur vraiment la façon dont vous avez conçu cette série. Évidemment, ça fait ressortir ce qu'il y a de pire chez l'être humain. C'est une très vieille thématique du cinéma, hein, la fin du monde, peut-être aussi vieille que le cinéma lui-même. C'est même un genre à part entière. On parle de cinéma post-apocalyptique. Alors, ça va chercher dans tous les registres, hein, de la super production d'anticipation à la série B de zombies, en passant par le film d'auteur très noir ou très poétique. C'était quoi vos références à vous, les petits parasites?
Alors nous, c'est plutôt, on s'approche d'un univers du type de Les Fils de l'Homme, Children of Men de Alfonso Cuarón.
Ouais.
Parce qu'on avait envie, en fait, de prendre le contre-pied de tous ces films post-apocalyptiques à l'américaine du style Mad Max, où finalement le spectateur s'identifie pas, il voit juste une fiction et ça paraît invraisemblable, ça paraît lointain. Nous, vu qu'on voulait toucher les gens, on a voulu plutôt s'axer sur des choses humaines, plus simples, comme on a par exemple l'épisode de la maison de retraite qui touche tout le monde.
Ouais.
On avait envie vraiment de faire sentir des
avec énormément de plan séquence, hein, si je ne m'abuse,
c'est
ça.
Oui, chaque épisode est en plan séquence.
Voilà, c'est ça.
Absolument.
C'est ça.
Ouais.
Donc, du coup, il n'y a pas d'effet de manche. On ne quitte pas le héros, le personnage principal.
Pour donner une sensation d'immersion.
Le fil rouge.
Exactement,
voilà.
Ouais.
Voilà. Alors, Andrea Vistoli, évidemment, on ne peut pas tenir un tel propos aussi militant, aussi radical, aussi exigeant, si pendant ce temps-là, on conçoit la série dans le vaste gâchis qui est généralement celui de la production et des tournages de télévision et de cinéma.
Oui, le gâchis qui est celui de la société actuelle, en vrai.
Ouais, ouais.
Effectivement, la thématique de l'effondrement est extrêmement délicate, elle crée beaucoup de dissensions. tensions, il y a beaucoup de polémiques. Rien que le fait qu'on ait choisi de ne pas définir qu'est-ce qui allait déclencher l'effondrement est un choix pour éviter ces polémiques. Mm-hmm. On sait qu'à un moment, il va y avoir un effondrement et à un moment, il n'y aura plus de pétrole et ce qu'on raconte sera vrai. Pourquoi on le raconte, c'est, enfin, qu'est-ce qui nous amène là est beaucoup moins grave. Et donc, effectivement, on a jugé chez EBIM qu'il était de notre responsabilité de porteur de projet d'encadrer la livraison de ce message. Et donc, pour faire très simple, d'essayer de répondre, ou alors tenter de fournir des éléments de réponse aux questions que la série posait dans la façon qu'on a eu de la produire.
Voilà. Ce qui était quand même bien la moindre des choses. Sinon, vous étiez à deux doigts.
Tout à fait.
Vous décrédibilisez, vraiment. Il faut raconter ce qu'est un tournage de cinéma ou un de télévision. C'est un temps très court.
Exactement.
Les heures sont comptées. Du coup, la seule chose qui tient à cœur à tout le monde, c'est ce que la caméra va réussir à obtenir. On ne veut pas perdre de temps. Il y a des tonnes de matériel et énormément de personnel concentré au même endroit. Donc, c'est énormément de concentration, de consommation d'électricité. C'est des montagnes de gobelets
et de déchets en général
et de bouteilles en plastique. C'est énormément de trajets, hein. C'est de la nourriture transportée sur le lieu du tournage et ensuite jetée. C'est des décors construits.
Exactement,
et puis ensuite balancés. Et puis, c'est des lieux abîmés aussi. Ça peut arriver. Aussi.
Ça peut arriver. Ouais, ouais. Ouais. Bon, nous, on a essayé de faire attention. Après, voilà, chacun de ces aspects-là est comme ça parce qu'on favorise l'efficacité. Nous, on a essayé de redéfinir ce paradigme-là de comment atteindre l'efficacité avec une équipe technique. Et en gros, on s'est débarrassé du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Et donc, en pratique, bah, ça donne tout un tas d'initiatives. On a commencé par une régie végétarienne, on a mutualisé les transports de personnes et de matériel, on a mis en place une régie sans déchets, donc on a essayé de limiter au maximum les déchets produits, alors pas de plastique, pas de jetable, hein, tout est réutilisable, des gourdes, des gobelets lavables, etc. On a aussi essayé, dans la mesure du possible, d'upcycler nos déchets, c'est-à-dire de les revaloriser, et puis au final, quand c'était pas possible du tout, essayer de les recycler quand même. Mm-hmm. Voilà, et on a découvert tout un tas de contraintes
de filières.
À l'heure actuelle dans la société qui nous ont un peu empêchés d'atteindre notre idéal. Et c'est en ça qu'on est très fiers d'avoir fait ça, c'est que ça nous permet de poser les bases d'un nouveau modèle et en tout cas, on pose les questions de la pérennité de ce modèle et comment on va pouvoir l'installer en
France. Alors, vous
êtes
relativement pionnier, vous n'êtes pas les seuls, hein, c'est une question que se posent aujourd'hui beaucoup de productions et de chaînes et de financiers du cinéma et de la télévision pour arrêter ce gâchis et cette gabegie qui est constatée sur tous les tournages. Est-ce qu'on en viendrait aussi, ça pose une vraie question et même une question artistique, à changer notre façon de raconter des histoires et d'écrire des histoires pour qu'un tournage soit plus écologique? Est-ce qu'on arrêterait de faire des décors d'époque, des films en costume, puisque tout ça n'est pas réutilisable dans le prochain polar tourné la semaine suivante? Est-ce qu'on arrêterait de tourner la nuit pour avoir à moins éclairer?
Je ne pense pas que...
Je pense pas,
moi j'arrêterai pas de raconter l'histoire que j'ai envie de raconter, tout dépend après de la finalité et de ce qu'on a envie de raconter. Des fois aussi, c'est vrai que ça peut être un non-sens, mais en même temps... La société en général est énergivore, va dans ce sens-là,
mais je pense
que c'est déjà un moindre mal d'essayer de réduire l'impact.
Enfin,
s'il fallait réduire des activités, je ne pense pas que la fiction et son pouvoir de nous projeter dans des imaginaires nouveaux soit la première chose à rogner.
Je pense
que vraiment, il est primordial que les auteurs et les réalisateurs de notre époque proposent aux spectateurs, aux téléspectateurs, des nouveaux horizons. Et que si on a autant peur de l'effondrement et si la société est dans le déni, c'est aussi parce que on n'entrevoit pas d'alternative.
Mais
c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec cette série-là. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on soit post-apocalyptique. Nous, on est seulement apocalyptique. On ne raconte pas l'après, en fait. On raconte la chute dans l'espoir de faire prendre conscience aux gens que cette chute va arriver et que plus on y sera préparé, mieux elle se passera.
Merci beaucoup à tous les deux sur week-end à tous.
Bon week-end.
Il est possible de changer les choses.
André Avistoli, donc le producteur, et Bastien Huguetto, des Parasites, réalisateur de L'Effondrement, qui est diffusé en ce moment sur Canal+. C'est la fin de l'émission. Anne-Cécile Perrin à la réalisation, Marion Philippe, Redouane Tella qui m'accompagne chaque jour pour la préparer, Alexandre Chenet à la technique et Ali Rebéi.
J'ai vu le premier épisode, mon Dieu que c'est anxiogène, mais c'est passionnant, c'est vertigineux, j'ai vraiment adoré.
Allez,
voilà, on s'en fiche, mais je dis quand même.
Dernière information, la série sera diffusée sur YouTube aussi, sur le YouTube des Parasites.
Absolument.
Sur le courant de l'année. Voilà. Ah bah voilà, pour ceux qui ont pas
gratuit. Plus.
Et ce matin, nous recevons un trésor national vivant, oui. Alain Rey,
oui.
Le co-créateur du Robert.
Et on va déguster des mots.
Des mots, plaisir des mots. Dites-nous quels sont vos mots préférés au 01 45 24 7000.